VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection en République démocratique du Congo, le président de la Commission d'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a jugé ce vendredi crucial que les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre dans le pays soient respectés par les autorités. Déclaration faite après des consultations à Addis Abeba avec le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine en RDC, l'ancien président malien par intérim, John Kounda Traoré. Ce dernier avait déjà prévenu mercredi que l'Union africaine, qui a mobilisé 80 observateurs pour suivre et évaluer le processus électoral en RDC, escomptait que les résultats officiels soient conformes au vote des Congolais. Les électeurs de la RDC sont dans l'attente de la proclamation des résultats du scrutin qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. Les États-Unis, pour leur part, ont exhorté les autorités congolaises jeudi à respecter le choix des électeurs en publiant des résultats exacts sous peine de sanctions. Et l'Église catholique congolaise qui dit connaître le nom du vainqueur de l'élection présidentielle grâce à ses observateurs sur le terrain lors des élections, a également demandé à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de proclamer les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. Pour plus de détails sur les affirmations de l'Église catholique congolaise, ce compte-rendu d'Eddie Isango.
La conférence épiscopale congolaise assure que les données à sa disposition consacrent les choix d'un candidat comme président de la République sans citer les noms. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, souligne que les irrégularités observées n'ont pas pu entamer les choix que le peuple congolais a clairement exprimés dans les urnes. Il appelle donc la CENI à publier les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. Auparavant, le président de la mission d'observation de l'Union africaine, John Kounda Traoré, ancien président malien, avait aussi demandé à deux reprises que les futurs résultats soient conformes à la volonté des électeurs. Arrêtez de nous intimider, arrêtez d'essayer d'influencer la décision de la CENI, leur a répondu Corneille Nangaa, président de la CENI. Il dit faire de son mieux pour que les résultats soit publié le 6 janvier, mais précise que si on n'y arrive pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, rappelle que seule la CENI est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Le pouvoir s'est dit serein et l'opposition prévient qu'elle ne se laissera pas ravir la victoire.
Pour terminer ce dossier sur la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui sur les élections dans le pays. La réunion à huis clos va se tenir à la demande de la France, alors que l'on attend les résultats du scrutin de dimanche dernier. Une autre réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, qui devrait cette fois être publique, se tiendra mardi prochain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, violence au Burkina Faso, les affrontements intercommunautaires du 1er janvier 2019 entre les Moussi, l'ethnie la plus importante du pays, et les Peuls, une importante minorité, à Yirgu, dans le centre-nord du Burkina, ont fait au moins 48 morts, selon un témoin anonyme joint par VOA Afrique. Ce témoin, qui a requis l'anonymat, a rejeté le bilan de 16 morts avancés mercredi par le gouvernement burkinabé. Son témoignage au micro de Bagassi Koura.
Quand c'est arrivé à premier lieu, j'ai vu effectivement qu'ils étaient en train de brûler les maisons de Peuls. Et dès lors qu'ils arrivent dans les maisons de Peuls, c'est directement sur un garçon. On le tue, on le garde sur toi. Il y a certaines, on les tabasse avec des bouquets. Il y a certaines, on les égorge directement. Et les images que je viens de vous donner, la preuve vient de témoigner que toute leur famille, que ce soit garçon, à partir des 12 à 13 ans, on les a tués devant eux. La dame les mettait en train de tirer et puis aller jeter au niveau du bas-fond. Alors, maintenant, on cherchait à voir effectivement où sont les corps. Mais l'interdiction vient des ONU et puis les forces de défense, c'est-à-dire la gendarmerie et puis la CRS. Présentement, où l'on je vous parle, je suis venu voir le monsieur le maire de la commune de Barcelone.
Oui.
La gendarmerie est en train de compter le nombre de décès par village.
alors que hier le gouvernement avait déjà dit qu'il y a 14 morts. Est-ce que ce serait plus?
Ce que le gouvernement a donné, c'est faux. Ce n'est pas le nombre exact. Moi-même, le premier, quand j'étais là-bas, j'ai compté plus de 48 et il y avait des points que je ne suis pas parti.
Pour les gens qui n'ont pas été là-bas, on a un bilan de 16 morts au total donné par le gouvernement. Vous vous dites 48. Oui. Comment vous avez pu compter ces corps-là? Expliquez-nous.
En fait, quand j'étais là-bas, je me suis présenté avec un colonel. J'avais moi ma carte. Au fur et à mesure, vu que vous voyez les confessions des peuples là, ne sont pas regroupés comme les Moussi. Il faut aller par là, par ceci, par là. Et là où j'arrive, si il y a un jeune, si il y a un vieux, si il y a un, par exemple, les peuples qui ont des retours, c'est-à-dire on les appelle directement, on les appelle, et dès qu'ils sont égardés. En tout cas, on a entendu qu'il y a un groupe qui quitte Choum pour rejoindre effectivement le village de Mourou, un groupe de djihadistes et puis de Choum. Et là, je lui ai dit, il a fait le déposé parce qu'effectivement, je ne peux pas les suivre. Parce que moi, je n'ai pas de contre-balle.
Est-ce que tous les peuls sont partis?
Oui, il y a même plus de peuls garçons dans le village-là, sauf les femmes et les enfants. Mais maintenant, monsieur le maire,
vous parlez de Elhadj Abdoulaye Pafadnam, le maire de la commune de Barsalogo.
Oui.
Mercredi soir, lui aussi, il parlait de 13 morts.
Non. Puisque les autorités, personne n'est allé sur le lieu. Donc, c'est par téléphone. Il faut aller sur le lieu pour comprendre.
Un témoin des violences dans le centre-nord du Burkina Faso, il a été joint par Bagassi Koura. Afrique du Nord, maintenant, les Nations Unies s'inquiètent du sort des ressortissants syriens bloqués à la frontière sud de l'Algérie. Mais Hassan Kachimi, directeur de la migration au ministère algérien de l'Intérieur, affirme que ces personnes arrivées par voie terrestre dans le sud du pays sont des miliciens défaits dans la guerre syrienne et constituent de ce fait une menace sécuritaire.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité aux États-Unis maintenant. Rentrée parlementaire hier du 116e Congrès des États-Unis. La Chambre des représentants est désormais contrôlée par les démocrates et le Sénat reste sous contrôle républicain. La démocrate Nancy Pelosi a fait son retour historique au perchoir de la Chambre, ce qui marque le début d'une nouvelle ère d'opposition au président Donald Trump, qui est républicain. Plus de détails avec Eric Maniakiza.
À 78 ans, Nancy Pelosi est la première et deuxième femme de l'histoire américaine à diriger la Chambre des représentants. Avec son contrôle, les démocrates décrochent en effet la tête de commissions parlementaires dotées de puissants pouvoirs d'investigation, notamment ceux d'assigner les témoins à comparaître et d'ordonner la présentation de documents. Ils ont d'ailleurs promis d'exiger du président Trump qu'il présente enfin ses déclarations d'impôts. Dans son discours inaugural, Mme Pelosi a appelé au respect des désaccords et de la vérité dans une Amérique divisée. Elle a aussi donné le ton sur son agenda législatif. D'abord, protéger la classe moyenne et les Dreamers arrivés sans papier aux États-Unis lorsqu'ils étaient mineurs. Sur l'environnement, Nancy Pelosi a promis d'adresser la crise climatique qu'elle a qualifiée de menace existentielle de notre époque. Déjà hier, dès la fin de journée, elle a soumis à un vote des mesures budgétaires temporaires pour débloquer les administrations américaines partiellement paralysées depuis le 22 décembre. La Maison-Blanche a par avance rejeté ces projets de loi qui n'incluent pas 5 milliards de dollars pour financer le mur voulu par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique afin de lutter contre l'immigration clandestine. Au 13e jour du shutdown, il reste ainsi difficile d'entrevoir une sortie de crise.
Pour terminer, conflit au Yémen, l'émissaire onusien pour le Yémen, Martin Griffiths, a prévu de nouvelles négociations dans les prochains jours avec les rebelles houthis et le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite. Et ce, alors que le cessez-le-feu de Hodeïda continue de rester en vigueur, selon l'ONU. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.